Bonjour à tous. À partir de 12h55, l'impôt sur la fortune, une manne ou un symbole dans la vie des idées. Aujourd'hui, retour sur la polémique avec l'économiste Jean-Marc Daniel, auteur de « Les impôts, histoire d'une folie française » chez Talendier, notre invité. Mais d'abord, Joyce Carol Oates était de passage à Paris tandis que la grande table était à Avignon. C'est donc Christophe Honoré d'Ibio qui l'a rencontré avec Marguerite Capel. Le producteur du Temps des écrivains nous offre aujourd'hui ses 20 minutes d'entretien passionnante avec l'une des plus grandes voix de la littérature américaine. Elle est l'auteur d'une œuvre prolifique, dont Blonde, comme Marilyn Monroe, et Les Chutes, prix Femina. Paysage perdu, récit autobiographique, sort demain aux éditions Philippe Ray, traduit par Claude Seban. De leur côté, les Cahiers de Lerne consacrent un numéro à l'incroyable générosité et inventivité de l'écrivain. Caroline Marquette viendra nous en parler. Joyce Carol Oates est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Bonjour Joyce Carol Oates.
Hello.
Votre nouveau livre, Paysage perdu, évoque votre enfance pauvre dans une ferme de l'État de New York, évoque votre amie Cynthia, une fille ambitieuse qui se suicida à l'âge de 18 ans, évoque une fille abusée par les membres de sa famille, évoque aussi votre sœur qui était autiste, mais c'est aussi un torrent de souvenirs très beaux, très puissants, de souvenirs avec la nature, avec les animaux, la forêt, les marches, un univers où, expliquez-vous, serait né votre désir d'écrire. Est-ce que vous pensez que pour un écrivain, tout commence dans l'enfance? Est-ce que vous pensez qu'une œuvre littéraire entière peut être expliquée par l'enfance qu'on a eue?
Je ne crois pas qu'on puisse expliquer quoi que ce soit qui a à voir avec la littérature. Les œuvres d'art sont très complexes. Quelqu'un qui viendrait exactement du même contexte que moi ne sera pas forcément écrivain. C'est quelque chose qui a abouti comme une rivière qui aurait beaucoup d'affluents et c'est tout ça qui forme la personne. Mon enfance à moi a été une combinaison entre une forme de solitude, de tranquillité et par accident le fait que ma grand-mère m'a donné tellement de livres. Donc j'ai eu cette tranquillité d'avoir grandi à la ferme, un endroit pas du tout intellectuel, et puis par accident le fait qu'une personne m'ait donné tellement de livres.
Est-ce que ce livre, Joyce Carol Oates, a été écrit pour offrir à vos lecteurs quelques clés cachées sur votre travail littéraire? Peut-être le mystère de la création, le mystère du travail de l'écrivain? Ou est-ce que c'est purement égoïste, un voyage dans votre enfance? Peut-être pour répondre vous-même à des questions que vous, vous vous posiez sur votre travail?
La façon dont j'écris ce livre est inhabituelle par rapport à mes autres livres puisque j'ai pris entre 20 et 25 ans d'écriture pour ce livre. Beaucoup de journalistes, d'éditeurs, en fait, m'ont proposé d'écrire différentes choses, d'écrire un texte sur mon père, un texte sur mes animaux, un texte sur mes années de lycée, un texte sur la première fois où j'ai pris l'avion et sur une période qui a couvert 20-25 ans, j'ai rassemblé tous ces petits articles. Et puis mon éditeur a dit, puisque j'avais écrit un mémoire sur le fait d'être devenue veuve, est-ce que j'accepterais d'écrire un mémoire sur la façon dont on devient écrivain? Et c'est comme ça que j'ai rassemblé tous ces éléments pour montrer la façon dont j'ai commencé à m'intéresser à l'idée de devenir écrivain.
Est-ce que vous pourriez expliquer, Joyce Carol Oates, bien sûr vous l'expliquez dans votre livre, mais pourquoi Alice au Pays des Merveilles a été le déclencheur de votre vocation d'écrivain?
Je crois que c'est le premier livre avec une véritable ambition littéraire, de la complexité, de l'ambiguïté, sur lequel je sois tombée. Et puis il y avait ces célèbres illustrations de John Tenniel que je trouvais vraiment enthousiasmante. J'ai probablement davantage considéré ce livre comme réaliste que ce que je verrais aujourd'hui.
Vous dites que c'est lié à la terreur, au fait d'accepter dans notre vie une part de terreur.
Oui, Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir, ce sont les aventures d'un enfant dans un monde surréaliste et chaotique. sans ses parents. Alice est toujours seule, elle n'a aucun parent. Dans la vraie vie, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des enfants, mais dans le monde imaginaire, les enfants ont davantage d'autonomie. Et je crois que c'était très important pour moi d'avoir ce genre d'aventure auquel je pouvais m'identifier. Cette personne qui mène sa quête n'a pas d'adulte autour d'elle, elle est autonome.
On découvre dans ce livre un monde de violence, un monde de violence faite aux femmes, notamment, comme dans vos autres livres, avec son lot de familles dysfonctionnelles. Mais on découvre aussi un certain nombre de très bons souvenirs, familiaux particulièrement. Pourquoi alors vous comparez, dans le livre, c'est la comparaison que vous faites, à un fantôme hantant les territoires perdus de votre enfance? Pourquoi fantôme ?
Quand on regarde vers le passé et qu'on l'analyse, on a un peu l'impression d'être une sorte de rôdeur. Je revois mon ancienne école, la ferme, ma chambre, les promenades que je faisais, et j'ai l'impression de devenir un fantôme qui réécrit, qui relit, qui revisite, qui revisualise ainsi le passé.
Vous parlez de votre livre comme d'une tentative de remémoration incomplète du passé à travers un certain nombre de symboles qui sont censés représenter le tout, représenter ce passé. Par exemple, Ellen Judd, c'est pas la seule fille abusée que vous avez connue. Ou Cynthia Eike, votre amie, celle qui s'est suicidée, c'est pas votre unique amie de l'époque. Est-ce que vous pensez que tout travail autobiographique ne peut être qu'une simplification de la complexité de la vie qu'on a eue?
Une autobiographie, c'est davantage comme de l'histoire. Si vous écrivez une autobiographie, il vous faut davantage de détails authentiques, de notes de bas de page. Alors que des mémoires, ça peut être plus impressionniste. En littérature américaine, le genre des mémoires est un petit peu différent de l'autobiographie. Je n'avais pas envie d'écrire une autobiographie. Il faudrait que je fasse des recherches, il faudrait que je vérifie des faits, que je mette des notes de bas de page, alors que dans des mémoires, je pouvais écrire sur un poulet sur lequel, dans la vraie vie, je n'aurais pas vraiment pu écrire comme ça. Mais il y a une dimension mythologique, onirique et impressionniste dans les mémoires, dans les souvenirs, qui donne un petit peu plus de marge à l'imagination.
Vous connaissez Baudelaire, évidemment, le poète français. Baudelaire définissait l'enfance comme un vert paradis. Le vert paradis des amours enfantines, écrivait-il. L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. Vous avez décidé d'intituler ce livre « Paysage perdu ». Est-ce que c'est votre définition de l'enfance, un paysage perdu ?
Le paysage que j'associe aux lieux véritables sont des lieux géographiques qui m'ont beaucoup plu, que je trouvais très beau. J'ai perdu ces lieux. Mais vous avez raison à propos de l'enfance. Le réseau de personnes qui vivaient à cet endroit-là, à ce moment-là, ça c'est irremplaçable. Ils ont disparu et ils faisaient partie du paysage.
Mais pourquoi ce terme géographique ? Paysage pour définir un moment, pour parler du temps.
Mais c'est parce que c'était ce lieu géographique. Ce n'était pas juste le souvenir d'une famille, c'était lié à l'endroit. J'ai un attachement sentimental très fort aux champs, aux bois, aux cours d'eau. J'ai le sentiment que mon être spirituel est lié à ces endroits. J'aime marcher dans un champ plein de fleurs parce que ça me renvoie à ce passé. Et pas seulement d'un point de vue intellectuel, c'est un souvenir sensoriel.
On parlait de symboles. Il y a un passage extrêmement marquant dans votre livre, c'est celui où vous décrivez votre sœur qui détruit vos livres avec ses dents, qui les déchiquette littéralement, avec ses dents, avec ses mains. C'est symbolique de quoi, cette sœur qui détruit vos livres ?
Bien oui, ça a été un événement effectivement très significatif, ça semble extrêmement symbolique en soi. J'étais l'écrivain, j'allais devenir professeur et ma sœur n'avait pas de mots, elle n'avait jamais prononcé le moindre mot. Ce livre d'Henry James avec l'introduction de R.P. Blackmore était tellement ésotérique, elle l'a déchiré en morceaux. C'est un symbole incroyable. Peut-être qu'est-ce qu'elle a fait était une forme de jugement critique sur cette introduction d'R.P. Blackmore. qui est très obscur et complexe par rapport à ce que James était.
Votre œuvre est pleine de violence, Joyce Carol Oates, notamment, on l'a dit, de violence faite aux femmes. Est-ce que votre engagement dans l'écriture, votre vocation, finalement, ne viendrait pas d'un désir de les venger, ces femmes ?
I think I'm also showing how people deal with life.
Je crois que je montre aussi comment les gens gèrent leur vie plutôt que de se présenter comme des victimes. Ils préfèrent être dynamisés par les difficultés et essayer de les transcender. Je viens d'une famille où on a été des victimes et on ne s'est jamais vu comme ça. C'est une sorte de contraste avec la société américaine aujourd'hui où beaucoup de gens se présentent comme des victimes. Ils peuvent en parler en ligne ou à la télévision, la façon dont on les traite si mal. Et ça sert parfois à excuser leurs propres échecs. Ma famille n'avait pas ce genre de recours. Ils ne se définissaient pas de cette manière. Ils continuaient à avancer tout simplement. Et je crois que cette persévérance, je l'ai gardée.
Il y a quelque chose de très étrange dans ce livre. En tout cas, moi, j'étais très surpris en lisant ce passage. C'est quand vous expliquez que concernant les expériences de violence subies par les enfants, vous dites que vous ne voudriez pas les revivre, évidemment, mais que vous ne souhaiteriez pas non plus ne pas les avoir vécues. Pourquoi vous dites ça ?
C'est probablement vrai pour n'importe qui a une expérience un peu intense. Si vous avez été dans l'armée, en période de guerre, vous pouvez être traumatisé, malheureux, mais quand vous revenez à votre vie un peu plus tard et que vous regardez en arrière, vous n'avez pas forcément envie que cet événement soit retiré de votre vie, que ce souvenir disparaisse, parce que vous ne seriez pas une personne aussi intéressante, vous ne seriez pas aussi complexe. Et quand on vieillit et qu'on perd la mémoire, parfois qu'on souffre d'Alzheimer, justement, on commence à perdre sa personnalité. Ce qui nous rend aussi unique, c'est cette accumulation de souvenirs.
Et en tant qu'écrivain, vous y accordez plus d'importance ?
J'ai pensé que grâce à mes souvenirs personnels, je pouvais avoir davantage d'empathie. Je m'intéresse aussi aux agresseurs, à ceux qui mènent la guerre. Ils sont aussi fascinants. Mon grand-père hongrois était quelqu'un de très physique, avec des gros bras musclés, une grosse voix. Il buvait énormément. J'avais peur de lui. Mais quand j'ai écrit ses mémoires, il est apparu que c'était un personnage particulièrement intéressant. Personnage bizarre, qui est vraiment incroyable dans le livre, alors qu'il n'était pas aussi agréable à vivre.
Votre dernier roman, Maudit, décrivait les heurts et les malheurs d'une dynastie privilégiée de Princeton dans les années 1905-1906. Et il jouait de tous les clichés du roman gothique. On avait une jeune fille enlevée par un démon, on avait des fantômes, on avait des vampires. Tout cela pour mieux nous parler de la condition des femmes, de la lutte des classes et de l'émergence des droits civiques dans une nation alors en pleine mutation. Comment évolue la condition des femmes aux États-Unis ?
Well, since 1906, when the novel took place...
Bien, depuis 1906, quand le roman se déroulait, la situation des femmes, des minorités a énormément changé. Il y a eu des lois qui ont été adoptées depuis. Mais d'une certaine façon, les vieux préjugés sont toujours là, ils s'accrochent, ça change très lentement. La nature humaine est très difficile à changer. Il faut des lois, justement, pour faciliter ces changements.
Dans le cahier de Lerne qui paraît en ce moment, Joyce Carol Oates, j'ai lu une auto-interview donc de vous, dans laquelle l'intervieweuse Joyce Carol Oates demande à l'interviewée Joyce Carol Oates pourquoi elle parle autant de ce type, Henry James, qui ne parlait que des écrivains hommes. Qu'est-ce que ça change au fond d'être un écrivain homme ou un écrivain femme ?
Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une voix féminine ou une voix masculine. Le paradoxe pour beaucoup d'écrivaines, de femmes écrivains, c'est que la plupart des grands écrivains du passé sont des hommes. Donc, si vous intéressez à la littérature, il faut reconnaître ce fait et se préparer à faire face à de la misogynie. Henry James, Hawthorne, Melville, Emerson, tous ces gens étaient probablement sexistes. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les prendre en compte du tout, parce que sinon on perd énormément.
Quand on vous demande quel personnage de l'histoire vous auriez aimé être, vous répondez Emily Dickinson, la grande poétesse. Qu'est-ce que vous aimez précisément chez Emily Dickinson ?
Emily Dickinson est une de nos meilleures poétesses, avec Walt Whitman, c'est une des grandes poétesses américaines. L'œuvre d'Emily Dickinson est tellement subtile, on peut passer toute une vie à travailler dessus. J'adorerais écrire un roman sur elle. J'y ai pensé, mais ce serait un véritable défi, ça pourrait être une sorte d'épopée de quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui, mais c'est néanmoins une épopée.
Vous savez ce qu'elle avait écrit à l'homme qu'elle considérait comme son mentor, il s'appelait Mr. Higginson. Est-ce que vous êtes trop occupé pour me dire si mes vers sont vivants ? Est-ce que c'est la question aussi la plus importante pour vous, Joyce Carol Oates ? Est-ce que mes livres, est-ce que mes mots sont vivants ?
Eh bien, c'est parce qu'Emily Dickinson répondait à une personne qui l'avait mis en colère parce qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était que ce qu'elle faisait en tant que poétesse et c'était assez ironique. Lui, il avait l'impression que ses vers sonnaient mal et il essayait de la corriger. C'est un très bon exemple d'un génie qui écrit à quelqu'un de tout à fait ordinaire qui a voulu lui donner des conseils. Je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, je m'adresse à de multiples voix, peut-être aussi à des gens qui ne sont pas encore nés.
Et si vous étiez un écrivain homme, qui est-ce que vous choisiriez ?
Si j'étais un homme écrivain, je voudrais très clairement être Emily Dickinson. Ce sera encore plus important d'être Emily Dickinson dans ce cas-là.
Juste un mot sur quelque chose que vous avez dit et qui me paraît très important. Vous avez dit « la littérature est essentielle à la société ». Pourquoi est-ce que vous pensez que dans une époque où, quand ils parlent de littérature, les gens disent plutôt « distraction »,« divertissement », pourquoi vous pensez est-ce que la littérature serait essentielle à la société ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Bien, je pense que la littérature, les arts en général, c'est en quelque sorte notre mémoire, sont les dépositaires de nos souvenirs. Alors que les romans sont davantage l'histoire, ils parlent du monde. Si vous avez une vision très superficielle du monde avec Twitter ou ce genre de choses, il n'y a aucune profondeur. C'est comme si vous perdiez tous vos souvenirs et que vous ne gardiez qu'une mémoire à très court terme et que tout était nouveau à chaque seconde, que vous ne vous souveniez pas de ce que vous avez fait hier, avant-hier. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous retombez amoureux toutes les semaines. Ça devient extrêmement superficiel. La littérature, c'est la profondeur. Si vous passez un peu de temps à lire Proust, c'est une sacrée expérience. Lire une bande dessinée, ce n'est pas comparable.
Vous n'êtes pas du tout angoissé avec l'avenir, de savoir ce que ce sera que d'être un écrivain au siècle prochain ?
Il y a toujours eu des gens superficiels, même quand Proust écrivait, il n'y avait pas que des gens qui l'appréciaient. Quand Kafka écrivait, la plupart des gens ne savaient pas ce qu'il faisait, alors que maintenant Kafka fait partie de la culture. Ça dépend à qui on s'adresse. Il y a toujours des gens superficiels qui ne lisent pas de littérature, mais il y a aussi des gens éduqués et cultivés.
Votre œuvre est tentaculaire, 70 romans et recueils. On vous demande souvent comment vous faites, tout en enseignant constamment, pour écrire autant. Mais on vous demande rarement pourquoi vous écrivez autant.
Je n'ai pas l'impression d'écrire tant que ça et je n'ai pas l'impression d'écrire si vite. Parfois, c'est au contraire pénible et long. Mon mari, qui est juste là, vous dira que j'ai beaucoup d'angoisse quand j'écris, que c'est très dur. Vu de loin, ça a toujours l'air facile. Les gens avaient l'habitude de dire que Marilyn Monroe jouait son propre rôle, que c'était facile, alors qu'il y a énormément de travail derrière tout ça. Les gens regardent les athlètes ou les boxeurs en train de gagner un match et ils ne voient pas les milliers d'heures d'entraînement derrière.
Et le fait que la question sociale soit au centre de votre œuvre littéraire, ça vient aussi, vous pensez, de cette enfance pauvre dans l'État de New York ?
Oui, je crois que j'avais très envie d'écrire sur mes grands-parents, le monde dans lequel ils habitaient. La dépression, le contexte était assez fascinant de savoir que mon grand-père était le maréchal Ferrand du coin. On lui amenait les chevaux. C'était incroyable.
Et cette Amérique qui émerge aujourd'hui, est-ce qu'elle vous inquiète ou est-ce que finalement vous restez optimiste ?
Je pense qu'on devrait tous s'inquiéter de l'environnement mondial dont fait partie l'Amérique. C'est une prise de conscience mondiale. Nous avons une crise mondiale. Et les différents pays, gouvernements, les États-Unis aujourd'hui sont une sorte d'État hors la loi. Et il faut absolument qu'on sorte de cet isolement et qu'on aille vers une prise de conscience mondiale.
En parlant de la politique, vous dites « les hommes politiques peuvent être fascinants, la politique jamais, à moins que ce ne soit le contraire ». Vous êtes un peu plus fixé maintenant ?
Did I say that ?
J'ai dit ça ?
Oui, vous avez dit ça dans une interview.
Oh. Well, that's sort of like Oscar Wilde.
C'est un petit peu du Oscar Wilde. Peut-être que je lisais Oscar Wilde à ce moment-là. La politique est tout à fait fascinante et terrible, parfois. Certains politiciens sont plus presque des artistes qui font des performances. Les dirigeants peuvent avoir une certaine forme de profondeur, alors que les politiciens, ce sont en quelque sorte des vendeurs. Ils tentent leur chance.
Merci beaucoup, Joyce Carol Oates.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
C'était Joyce Carol Oates avec la voix française de Marguerite Capelle au micro de Christophe Onaudi-Billot. Au commencement, c'est ce qu'elle met en ouverture de ce livre Paysage perdu, ce livre qui n'est pas une autobiographie mais des mémoires comme elle le présente elle-même. Au commencement, nous sommes des enfants imaginant des fantômes qui nous effraient. Peu à peu, au cours de nos longues vies, nous devenons nous-mêmes ces fantômes, hantant les paysages perdus de notre enfance. Caroline Marquette, bonjour.
Bonjour.
Le nouveau cahier de Lerne vient de sortir, consacré à cette figure de la littérature américaine qui, depuis 63, a publié romans, poésies, essais, pièces de théâtre et puis aussi, sous d'autres noms, des polars qu'elle signe Rosamund Smith ou Lauren Kelly, prolifique, certes, iconoclaste, surtout, elle écrit tout le temps, Joyce Carol Oates, et depuis toujours. Ses mémoires, Paysages perdus, c'est vraiment l'enfance de l'art, on comprend l'écrivain qu'elle est devenue. Est-ce qu'il y a pour elle une forme de réparation par l'écriture, ou d'exutoire, ou une manière d'exorciser ses fantômes ? Comment vous interprétez le sens qu'elle donne à l'écriture ?
Grande question. Effectivement, je pense qu'elle revisite à la fois le chaos de l'Amérique contemporaine et ses fantômes à elle. Elle va certainement se servir de l'écriture pour essayer de donner du sens au tumulte qui l'entoure, ainsi qu'à ses traumatismes, aux traumatismes qui l'ont façonné tout au cours de sa vie. Il y a ces deux pendants.
Elle est féministe, même si elle refuse qu'on analyse son œuvre à l'aune de son genre. Elle le dit dans cet entretien avec Christophe Onaudi-Billot. Je ne crois pas qu'il y ait une voix féminine et une voix masculine dans la littérature. Elle a une œuvre immense. Vous avez pris le parti, vous, dans le cahier de Lerne, de faire découvrir des pans un peu moins connus d'elle, comme sa passion pour la boxe. Alors que la violence est omniprésente dans son œuvre, qu'elle l'a été aussi dans sa vie, que projette Watts, catégorie poids-plume, sur le ring ?
Elle dit que du boxeur qu'il est elle le héros tragique qui va quelque part donner une catharsis à la violence de toute la société qui va par ses coups à lui et sa façon de rendre les coups aussi révéler la part de férocité qui se cache en chacun de nous, en chacun des membres du public du match de boxe. Je pense que c'est quelque chose en ce sens qui est une sorte d'avatar de Joyce Carol Oates elle-même qui dérange beaucoup dans ses romans, de par, je pense, la part de sauvagerie, le miroir voilà, qu'elle nous tend et auquel on a parfois tendance à résister de nous reconnaître.
Parce qu'elle est, elle aussi, au croisement de l'American Dream et de l'American Drama, comme elle le dit, hein. Comme cette figure du boxeur.
Oui, tout à fait. Elle part de rien, elle se met à nu, ne peut survivre que par ce face-à-face avec quelque chose. L'écriture, pour elle, c'est quelque chose d'assez radical et d'assez, dangereux. Elle se met en danger. Et oui, en ça, elle est une sorte de boxeur, tels les boxeurs qu'elle allait voir se battre avec son père quand elle était toute jeune, je crois autour d'une dizaine d'années.
Joyce Carol Oates, la brindille, elle est souvent perçue comme une écrivain ou une écrivaine de la psyché américaine. Vous êtes particulièrement intéressée à la place du corps dans la fiction de Joyce Carol Oates. Le corps comme moteur stylistique, il détermine son souffle et son écriture. Ou, comme le dit aussi la romancière Nancy Houston, qui signe une autre contribution du cahier de Lerne ce mois-ci, Oates se servira de la privation de son corps pour nourrir ses personnages, leur donner à eux des appétits, les utiliser comme des antennes, des capteurs, des cellules détectrices. Ce corps, c'est à la fois une entrave et une limite que l'écriture peut lui permettre de dépasser. Caroline Marquette.
Oui, de dépasser et d'utiliser le corps violenté, plus précisément, pour moi, était aussi un outil politique dans son écriture qui visait à révéler une... En fait, on a beaucoup parlé du corps violenté et on a fait souvent une lecture assez pathologique la position du corps dans son œuvre. Moi, j'ai essayé plutôt de prendre le contre-pied de ça. Je trouvais qu'il y avait ce souffle dont vous parlez, que le corps était au cœur de son dispositif poétique, qu'il mettait en branle l'écriture pour peut-être, dans un premier temps, transcender ce carcan anatomique, ce carcan périssable, voilà, qui est lié à la mortalité, et mais aussi pour aller chercher une vérité. Il y a une quête rageuse de vérité dans cette violence qui se répète à l'encontre du corps physique, mais aussi du corps social de l'Amérique. Pour moi, il y avait une vision politique, elle voulait critiquer un grand corps malade national.
Oui, ce grand corps de l'Amérique, c'est une chroniqueuse de l'Amérique, Joyce Carol Oates, et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle est de plus en plus adaptée. Vous consacrez d'ailleurs un long chapitre dans le cahier de Lerne sur ses adaptations. Pourquoi est-ce qu'elle fait l'objet de tant de reprises? Qu'est-ce qu'elle inspire à d'autres auteurs, d'autres réalisateurs? Quelle chronique de l'Amérique? Et on terminera là-dessus avec vous, Caroline Marquette. Elle le dit, il y a cette idée à la fois d'un État hors la loi. Elle n'est pas tendre d'ailleurs avec Donald Trump, non pas dans ses livres, mais sur Twitter, sur lequel elle est extrêmement active. C'est une femme engagée dans la manière dont elle parle de l'Amérique, dont elle révèle aussi ses faiblesses pour vous aujourd'hui.
Oui, sans aucun doute, son écriture subversive qui vient écorcher les grands mythes fondateurs de l'Amérique, je pense que c'est ça qui peut-être inspire aussi d'autres auteurs, que ce soit aux États-Unis mais aussi en France. On a vu Laurent Canté adapter son roman Confession d'un gang de filles à l'écran il y a quelques années. Et cette écriture sans concession qui vient égratigner toutes sortes de figures tutélaires, je pense que à la recherche d'une vérité assez universelle, finalement, c'est peut-être ça qui met le pied à l'étrier de tous ces autres auteurs qui la rejoignent dans ces carrefours qu'on a voulu évoquer dans ce dernier chapitre.
Et dans ce grand cahier de Lerne consacré donc à Joyce Carol Oates, de nombreuses contributions, dont une d'elle-même, entretien avec elle-même, Joyce Carol Oates, et puis celle de sa traductrice qui participe aussi à ce numéro que vous avez co-coordonné, Caroline Marquette, sa traductrice Claude Seban, qui a une fois encore traduit ce paysage perdu, ce récit qui paraît aux éditions Philippe Ray demain. Un grand merci à vous.
Merci
Caroline Marquette.